Qu'est-ce que vous voulez?
Des renseignements.
Vous n'en aurez pas.
De gré ou de force, vous parlerez.
Moi, un rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Ce soir.
Et sur France Inter, on a les moyens de nous faire parler. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Ça y est, vous avez rendez-vous avec nous. Soirée énervée en deux temps et à deux vitesses. Ça commence dès 18h en podcast avant le passage antenne, 22h minuit. Chaque soir, première partie, l'actualité, la musique live. Deuxième heure, les archives extraordinaires de France Inter. L'actu ce soir, c'est espion, qu'est-ce qui a changé? Où en est l'espionnage au 21e siècle? Les barbouzes d'hier ont-ils laissé la place à des hackers économiques ultra performants? L'univers du renseignement s'est-il féminisé et dans quel sens? Plein de réponses sort dans le NRV. Avec quel titre?
C'était pas du tout mon titre.
Non.
Vous avez inventé un titre.
Et justement, pour vous laisser.
Vous êtes caché, c'est un complot contre moi, je le sais bien.
Pour vous laisser votre titre.
Mais j'avais envie aujourd'hui de mettre des titres un peu longs. Mm-hmm. Et donc, premier titre, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'espionnage sans jamais oser le demander.
Très Woody Allen.
Titre. Oui. Deuxième titre. Plus précis peut-être, pour une eschatologie de l'espionnologie dans une perspective épistémologique au regard de la multipolarisation géopolitico-sociale d'un monde qui nous questionne au plan structurel. Vous ne trouvez pas?
Ben je trouve que pour la SCAM, c'est parfait parce que plus vous parlez, pour la SCAM, plus vous êtes
bon.
Payé. Très bien, on a compris. Premier live de la semaine, Marion Guilbeault, et la pression est énorme.
Ah là là là, et moi j'ai pris du coup un billet pour Pondichéry avec Air India. C'est le nouveau projet exotique au pop de David Stank et il est en live à la fin de l'émission.
Et puis, autre parole, ce sera le NRV la suite. Cette semaine, 4 ans après les attentats du 13 novembre 2015, France Inter Plus mène une enquête au long cours signée Sarah Guibaudot. 13 novembre l'enquête, ce soir, les épisodes 1 et 2. Alors le NRV, c'est parti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Alors avant de commencer, Christophe, je vous présente nos invités. Rémi Coffert, vous êtes historien et journaliste, auteur de Les Femmes de l'Ombre. Bonsoir.
Bonsoir.
Sergueï Zhirinov, vous êtes ancien espion du KGB. Vous êtes l'auteur du roman Pourchassé par le KGB, Naissance d'un espion aux éditions Corpus Delicti. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Jean Guinel, vous êtes journaliste et vous signez Histoire secrète de la DGSE chez Robert Laffont. Bonsoir.
Bonsoir.
Et enfin, Roland Pietrini, vous êtes ancien agent secret français, officier de réserve, consultant opérationnel et le dernier livre, c'est Piège au Levant aux éditions Pierre de Taillac. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
On y va?
Ah bah si vous voulez,
éditorial,
oui.
Savez, Christophe Bonseiller.
Laurent, on est entre nous, hein. Dites-le ce soir. Pour qui roulez-vous, Laurent? Vous êtes toujours en voyage? Je vous vois
chaque soir
bien souvent en compagnie de personnes peu recommandables, au casier bien fourni. Votre parfum est entêtant. Si vous êtes un agent, Laurent, ce n'est pas grave. Car il faut que vous sachiez que le renseignement français aujourd'hui, eh bien sachez-le, il a la cote. Il a été glorifié par la série Le Bureau des Légendes. Il se féminise en un processus irréversible. Enfin, et c'est le principal, il ne souffre plus des scandales passés. Oui, Laurent, au XXe siècle, quand on évoquait le renseignement, on songeait aux barbouzes, à l'affaire Ben Barka, aux combines de la France-Afrique. Aujourd'hui, tout cela paraît bien loin. La rivalité Est-Ouest a fait place à un monde multipolaire. Un pour moi, tous pour moi. Tel est le nouveau credo du monde actuel. Le bonheur quoi? Alors, Jean Guinel, on assiste, dites-vous, dans votre histoire secrète de la DGSE, qui est, je dois dire, farcie de révélation, on assiste, vous dites, à une dédiabolisation du renseignement. Vous le dites au début de votre ouvrage. Que voulez-vous dire par là?
Eh bien, je veux dire que il n'est plus trop exotique ou il n'est plus trop impossible pour une personne bien née d'entrer à la DGSE. La DGSE, c'est mon sujet cette fois. Je ne parle pas du renseignement intérieur, je ne parle que du renseignement extérieur. Des gens qui vont à l'extérieur de la France violer les lois des pays étrangers pour récupérer l'information qui n'est pas de l'information ouverte, qui n'est pas de l'information grise, qui est de l'information secrète. Celle qu'il faut voler, celle qu'il faut acheter, celle qu'il faut arracher par des moyens qu'on n'apprend pas vraiment à l'école de la République. Donc, il faut... C'est un univers qui est totalement sulfureux, mais qui, depuis une dizaine d'années, se est plus ouvert, nécessité faisant loi. C'est-à-dire que il y a de plus en plus de budget, il y a de plus en plus de besoins, et donc il faut de plus en plus de monde pour assurer ces missions. Et ça, les services ne peuvent le faire qu'en récupérant des gens qu'il ne récupérait pas avant, qu'il ne faisait pas venir des ingénieurs des grandes écoles, des informaticiens de très haut niveau. Il faut que la DGSE se batte avec des entreprises extrêmement riches qui ont les moyens d'acquérir les meilleures compétences. Et c'est là qu'elle se bat. Et c'est pour ça qu'elle doit s'ouvrir.
Alors justement, du côté de l'étranger, Sergueï Girnafou, vous êtes journaliste, c'était votre couverture. Vous avez été agent du KGB. Vous êtes rentré au KGB en 84, c'est ça, dans les années 80?
Oui, 84, oui.
Vous êtes réfugié politique en France depuis 2001. En tout cas, oui. C'est la France qui vous a accordé ce statut-là. Vous avez fait partie du KGB. Aujourd'hui, le FSB, quelle est la différence? On a à peu près le même profil que la DGSE, c'est-à-dire de nouveaux participants, des budgets faramineux.
Déjà, je suis obligé de vous corriger un tout petit peu parce que le pendant de la DGSE, c'est pas le FSB, c'est le SVR.
C'est le SVR, oui.
Donc c'est le service de renseignement extérieur qui, il se développe énormément. Il a énormément de budget. Disons la Russie en général. Si vous prenez le budget d'État, c'est 30% qui sont dédiés à l'armée, aux services spéciaux et à la production des armements. Ça veut dire qu'en fait, la Russie, c'est un pays en guerre. Il a un budget de pays en guerre. Ça, c'est la différence avec la France. Même avec le dédoublement de budget de la DGSI et de la DGSE le dernier temps, ou les 10 dernières années, Poutine, il a une longueur d'avance. Voilà.
Mais est-ce qu'on peut dire pour autant que, par exemple en France, que l'ère des barbouzes est terminée? Je vous regarde en disant ça, Roland Pietrini, non pas que vous soyez un barbouze, mais parce que vous avez été dans le renseignement militaire en action opérationnelle pendant de nombreuses années. Est-ce qu'on peut dire que ça a changé, ou est-ce qu'il y a toujours des opérations, entre guillemets, discutables?
Je pense que lorsqu'on veut faire des opérations clandestines qui offrent des garanties pour un État à ne pas se mettre en avant et ne pas risquer une découverte et donc de se mettre en difficulté, sans vouloir révéler des choses absolument secrètes, il me semble que l'on pourrait de temps en temps utiliser, je dis ça au conditionnel bien entendu, des officines non officielles qui pourraient prolonger une action menée contre des terroristes, par exemple.
Mais dans son livre... Oui, alors, et après Jean Guinel, ouais. Parce que dans son livre, il parle d'action.
L'ancien président de la République, François Hollande, a dit que nous, on a fait. Donc, en fait, il a même pas pris les précautions d'usage. Il a dit la France a participé à ça.
Et ben, vous dites, Jean Guinel, vous parlez de l'assassinat du leader des Chebab au Mali en 2014, sur ordre de François Hollande.
Oui, c'est-à-dire c'est une opération qui consiste pour la DGSE à trouver le chef des Chebab qui s'appelle Godane, à le trouver et à donner les positions au président de la République, et le président de la République François Hollande dit eh bien il a cette formule assez lapidaire, il dit dégommez-le. Et la DGSE à ce moment-là, qui n'a pas les moyens d'agir dans cet endroit, demande aux Américains de s'en charger et il reçoit deux ou trois bombes de 250 kilos sur sa voiture, ce qui a abrégé son existence. Je voudrais juste revenir sur le point des officines qu'évoquait mon voisin tout à l'heure. Je pense que l'action létale de l'État, c'est-à-dire que l'on se donne les moyens soit de mener des actions illégales très très graves, soit de tuer, pour moi, c'est une prérogative de l'État. Si ce sont des entreprises privées qui font ça, elles n'ont absolument aucune protection et les gens qui mèneraient ces opérations courraient des risques absolument considérables. Donc pour moi, c'est une action d'État.
Et donc à l'Est, tout le monde a dans sa mémoire Skripal l'année dernière, la tentative de Sergei Skripal et de sa fille Yulia, parce qu'il ne faut pas oublier, ils étaient deux, à être empoisonnés à Londres.
Avant,
il faudra se souvenir aussi de Litvinenko, Alexandre Litvinenko en 2006.
Bien sûr. Bien sûr.
Voilà, donc Poutine a recommencé la belle pratique d'assassinat via les services secrets depuis plus de temps que la DGSE, à mon avis.
Pourquoi Poutine mise autant d'ailleurs sur les services secrets? Parce que véritablement, c'est sa culture.
Oui, c'est sa culture parce que lui, il est vraiment imprégné de la culture soviétique. Ça veut dire que en réalité, l'État soviétique, c'est un État qui ment tout le temps. Et donc, du coup, il part du principe que tous les autres mentent aussi. Et donc, pour Poutine, il n'y a rien que un document secret volé sur la table d'un chef d'État qui raconte vraiment la vérité.
C'est-à-dire que s'il y avait des enquêtes menées, par exemple, par des journaux, ça ne lui servait à rien du tout.
Par exemple, moi, j'ai l'habitude de dire Mediapart ou Canard Enchaîné, c'est un bon service de renseignement. Pour Poutine, ça n'existe pas.
Il faut avoir accès aux documents secrets.
Documents secrets volés sur la table du dirigeant.
Juste une question par rapport à la DGSE. Elle en est où aujourd'hui, la DGSE, dans son rapport avec l'armée? Parce que pendant des années, il y a eu des relations difficiles, des prérogatives entre les deux. Alors, la DGSE menait des actions militaires.
D'abord, à cette date-là d'aujourd'hui, ou en tout cas fin décembre, elle comptera environ 7000 agents, dont 1000 appartenant au service Action, qui sont pratiquement tous des militaires. Et à l'intérieur des 6000 qui restent, il y a une proportion de militaires qui est inférieure au quart et qui baisse constamment. Et qui, ces militaires, en proportion, sont remplacés par des civils.
Sergueï Girnov.
Et ce qui est très important par rapport à la DGSE, c'est que pendant des années, il a été dirigé par les généraux, par les militaires. Ouais. Maintenant, depuis des années, depuis au moins 15 ans, elle est dirigée par les diplomates.
Elle s'est démilitarisée d'une certaine façon. Alors, il y a des révélations de votre livre, Jean Guinel, qui m'ont beaucoup surpris. Vous faites allusion notamment à un piratage informatique, souvenez-vous Laurent, qui avait été fait en 2015 sur une chaîne qu'on connaît bien, nous, à Radio France, qui est TV5 Monde, je crois. On va écouter peut-être un document de cette époque qui raconte ce piratage informatique.
Durant 7 heures, sur les 5 continents couverts par TV5 Monde, ce même néant. Une multitude d'écrans noirs et un plateau désespérément vide. Plus aucun signal n'émet sur les 11 chaînes retransmises dans plus de 200 pays. Et cela ne ressemble pas à une panne, bien au contraire.
Ça a démarré sur les comptes Twitter de la chaîne, on l'a vécu en direct, ça a irradié sur Facebook, sur l'ensemble de nos comptes sociaux, et au même moment, de façon synchrone, les antennes sont tombées.
Nous sommes face à des terroristes déterminés, et nous sommes déterminés à les combattre. Les moyens qu'ils mobilisent sont des moyens puissants qui nous obligent à nous adapter en permanence. Et c'est ce que nous faisons sans trêve ni pause.
Jean Guinel, dans votre histoire secrète de la DGSE, vous révélez que on a accusé à l'époque, et tout le monde a pensé, que les auteurs de ce piratage étaient des hackers de Daesh, que c'était une opération djihadiste. Et en fait, vous dites pas du tout.
Alors, c'est ça l'histoire. C'est-à-dire, au début, les services chargés de la protection des infrastructures sensibles en France, notamment celui qui s'appelle l'ANSSI, a dit d'abord ce sont des hackers et après a laissé entendre que ça aurait pu venir de Poutine. Et moi, quand j'ai travaillé sur le livre, on m'a dit oui, Poutine, mais enfin bon, on n'a pas vraiment les preuves. Et en fait, aujourd'hui, on ne sait plus qui c'est. Ça devait être des bisounours, sans doute. Et en tout cas, on ne peut plus dire que c'était Poutine. Moi, je note que ça coïncide avec le rabibochage entre la France et la Russie qui est en cours.
Vous, votre thèse, c'est que c'est une opération russe.
En tout cas, moi, les informations sur lesquelles je me base, celles que j'ai pu connaître, moi, je suis journaliste, je suis pas, voilà, c'est effectivement que c'est une opération russe.
Sergueï Girnov, vous qui êtes aussi journaliste et qui avez été un espion du KGB, votre thèse?
Disons, pour faire la différence, je vais parler en tant qu'un ancien agent secret. Pour moi, mon nez m'ont dit que c'est Vladimir.
Pourquoi vous avez quitté le KGB?
J'ai quitté le KGB parce que le KGB a cessé d'exister. J'étais en mission en France à l'ENA pour infiltrer l'ENA. Donc pendant que j'infiltrais l'ENA, le KGB a été interdit après la tentative ratée du putsch contre Gorbatchev. Après, il y a l'Union soviétique qui a disparu. Mmh. Et je me suis retrouvé sans mon service et sans mon pays. Et sans mon parti communiste pour lequel j'ai été censé de travailler.
Alors j'ai une question aussi à poser peut-être à l'ensemble peut-être à vous Roland Pietrini ou à Jean Guinel ou à Rémi Coffer. C'est, il y a une affaire en ce moment dont on parle beaucoup dans les médias. C'est le procès des dirigeants des ciments Lafarge accusés d'avoir poursuivi leurs activités à un moment où Daesh s'était emparé de la zone où ils étaient.
En Syrie.
Alors, le bruit court que les services français auraient poussé les Simon Lafarge à poursuivre cette activité. Voilà, est-ce que ça, c'est le cas, Jean Guinel?
Ça, je sais pas, ça reste à démontrer, en tout cas.
C'est sûr.
Et de toute façon, la DGSE qui ne travaille qu'à l'extérieur, c'est pas ni un service de sécurité sociale, ni un service de police judiciaire, c'est un service de renseignement. Donc, si des gens français ont des activités dans un territoire contrôlé par Daesh, c'est juste son boulot. Elle est payée pour ça, d'être en contact avec eux. C'est pas à elle de faire de la morale et à dire c'est pas bien.
Sergueï Zhirinov, c'est logique. C'est parfaitement logique. Les Russes auraient fait la même chose.
Non, je pense que les grandes entreprises françaises comme étrangères ont toutes vocation entre guillemets pour abriter un certain nombre de personnes qui s'intéressent au milieu dans lequel ils vivent. Ça me paraît tout à fait évident.
Donc vous voulez dire qu'il y a des espions dans les civils en Lafarge.
On peut citer à une certaine époque Air Liquide par exemple et d'autres entreprises.
Oui, mais bien sûr, il est évident que d'une part, vous avez dans le personnel diplomatique, eh bien, vous avez toujours en proportion plus ou moins importante des officiers de renseignement qui sont glissés dans les représentations diplomatiques. Et évidemment, quand il y a des gens d'une entreprise X ou Y qui est dans un pays également X ou Y, le service de renseignement du pays en question a tout à fait intérêt à avoir justement des informations secrètes. C'est sa vocation, c'est sa raison d'être. Donc effectivement, c'est peut-être pas propre, souvent c'est pas propre, mais on ne les mobilise pas, les services de renseignement, on les mobilise pas pour faire, comme disait tout à l'heure Jean Guinel, pour faire le bisounours.
Exactement.
C'est pas leur boulot.
Alors les espions se planquent, lui, il joue à découvert, nom de code, le flegmatique, sur France Inter.
Découvre à découvert. espoir de retour en arrière. En arrière, aucun Éden est devant toi, un sanctuaire.
À découvert, signé Le Flegmatique, un extrait de son album Ruine, nouvelle programmation dans l'ombre de Jean-Louis Murat, signé Jean-Baptiste Audibert.
Rendez-vous ?
C'est vous qui vouliez travailler à la DGSE ?
Non, c'est eux qui sont venus me chercher. J'y avais pas pensé.
Vous savez pourquoi ils vous ont recruté ?
Moi, je préfère pas répondre à cette question.
Pourquoi ?
Parce que c'est narcissique et donc pas très utile.
À cause de votre intelligence ?
Le nouveau rendez-vous ?
Parce que vous êtes loyale, que vous savez vous adapter ? Parce que vous êtes exigeante et discrète ?
Parce que je suis un soldat.
Laurent Goumard ?
Vous n'avez pas l'air d'un soldat.
Mais c'est pour ça que je suis bonne. Je suis un soldat sans armes. J'ai l'air innocente. Mon pays a l'air en paix.
Sur France Inter.
Un extrait du Bureau des légendes, espionnage, les femmes s'en mêlent, c'est la deuxième partie du Énervé ce soir, on en parle avec nos invités, et notamment avec vous Rémi Coffert, puisque vous signez Les Femmes de l'Ombre. Quand on entend cet extrait, ça vous...
Ah, c'est évidemment du Bureau des légendes, ouais. Effectivement, ça correspond à une mentalité qui est plus actuelle. Je peux compléter ce que disait Guinel tout à l'heure, il y a effectivement à peu près 7000... Le personnel permanent de la DGSE d'à peu près 7000 personnes, dont en gros 30% de femmes. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Et le processus de féminisation des services de renseignement français a été beaucoup plus tardif, par exemple, que celui des soviétiques, qui même de l'époque ancienne.
Non, Sergueï dit ouais. Non, il n'y avait pas de femmes.
Ben, oui, mais
malheureusement,
Sergueï Gernov, ancien du KGB.
On ne m'a pas laissé expliquer.
Sergueï vous contredira dans quelques instants.
Voilà.
Continuez.
Ouais. Sauf au milieu de longtemps, l'international communiste, le Comintern et les différents services de renseignement soviétiques de l'Union soviétique utilisaient beaucoup de femmes. Pas en proportion, pas autant que des hommes, mais beaucoup de femmes. Mais ça s'est interrompu à peu près au milieu de l'ère Khrouchtchev et ça n'a repris un peu qu'à l'époque de Gorbatchev. Donc effectivement, il y a une longue période de glaciation. Mais dans les temps anciens, moi, mon histoire commence, elle commence pendant la guerre civile britannique au milieu du XVIIe siècle. Donc c'est une histoire des femmes dans les services secrets qui prend toute la dimension. Et en effet, pendant toute une période, les services secrets de l'Est, et en particulier communistes, en particulier soviétiques, pardon, ont utilisé beaucoup de femmes. Et puis, à une époque de glaciation.
Alors, c'est peut-être, vous
l'avez peut-être connu, cette époque-là.
Vous dites une chose intéressante à ce propos-là. Vous dites, on utilisait les femmes, c'était des sex intelligencers, c'est-à-dire c'était des femmes très belles, et vous citez Marthe Richard en disant une phrase très drôle, elle a couché pour la France,
oui.
Par exemple.
Alors, non, she intelligencers, eh bien, je laisserai mon interlocuteur ou mon contradicteur parler, she intelligencers ou female intelligencers, ce sont des termes qui ont apparu précisément au milieu de cette guerre civile anglaise, donc entre les royalistes et les partisans de Cromwell, où des femmes qui n'étaient pas forcément des belles femmes, mais qui étaient des femmes, ont été engagées. Et ce terme a apparu à cette époque, donc il y a plusieurs siècles, et je suis presque surpris de l'avoir exhumé et qu'on s'étonne de l'apparition de ce terme qui est très ancien mais qui a été peu usité.
Sergueï Gernov. Voilà. Donc pour la Russie, bien évidemment, là il y avait plusieurs périodes, mais le mythe de femmes soviétiques et communistes travaillant pour les services secrets, c'est un grand mythe. En réalité, il y en avait très peu de femmes. Le seul service qui utilisait les femmes à l'époque, c'était le service des illégaux. Et encore, les femmes étaient la plupart du temps les épouses d'un espion. Et donc, elles étaient en général, en règle générale, soit les opératrices radio, soit les codeurs-décodeurs. Codrice, décodrice.
Il y a aussi Caridad Mercader, la femme de Ramon Mercader, l'homme qui a tué Trotsky.
Tout à fait, mais qui lui a permis en fait de faire les démarches, etc. Mais la femme n'était absolument pas au milieu du service. Donc, quand j'ai fait mes études dans les années 80, il n'y avait aucune femme dans les écoles du KGB, dans les écoles d'espionnage, aucune femme. On n'était que des hommes. Et à l'heure actuelle, Narishkin a confirmé la même chose, c'est-à-dire que dans le personnel du SVR, il y a à peu près 25% de femmes. Mais ces femmes, c'est quoi? C'est les enseignantes de langue étrangère, c'est les secrétaires, c'est les métiers tout à fait secondaires.
Et pour quelle raison?
Parce que ils sont machos. en Russie, on est macho, on n'a pas confiance en femme. Femme peut trahir plus facilement que l'homme.
En tout cas, vous avez dit une chose, ça, c'est évidemment, on peut avoir toute réserve sur ce genre de jugement. Vous avez dit une chose qui est parfaitement exacte, c'est que vous avez une sorte de conception fonctionnelle du couple d'agents, qui est une conception très soviétique. Et je cite effectivement un ancien officier de renseignement soviétique qui le disait. Il disait, c'est mieux que l'agent sur le terrain soit avec son épouse, parce que il va pas courir la prétentaine, il va pas faire de bêtises, etc. Et par ailleurs, il n'ajoute pas, mais moi j'ajoute, il se contrôle mutuellement. Donc vous avez une certaine fonctionnalité, vous avez une certaine asexualité des couples de renseignement des pays communistes. Quand je dis asexualité, c'est-à-dire que ils sont moins machos d'un certain point de vue, mais de l'autre, effectivement, tout est fonctionnel, c'est-à-dire assez glaçant quand même.
Roland Pietrini.
Oui, ben je dirais que les femmes ont un rôle d'autant plus important qu'elles sont rares. On estime qu'une femme, par exemple, est une excellente analyste la plupart du temps. Et Dieu sait qu'on a besoin des analystes dans les services de renseignement.
Psychologues.
Et des psychologues, bien entendu. Je pense que les facteurs culturels et politiques sont aussi un élément de différenciation entre les États extrêmement important. Les services de renseignement n'ont pas été inventés au XXe siècle.
Bien sûr.
Ils sont issus d'une histoire. Et dans cette histoire, les femmes ont joué un rôle important.
Et il y a maintenant une féminisation du renseignement qu'on voit par exemple par le fait que, alors pas tellement en France, hein, mais par le fait que Stella Remington, par exemple, a été directrice du MI6 de 1992 à 1996, que Avril Haines a été numéro 2 de la CIA en 2013, donc c'est vrai qu'il y a une certaine...
Mais la patronne, Gina Espel, la patronne de la CIA à l'heure actuelle, c'est une femme.
Voilà.
Effectivement. Et pour ce qui concerne...
Aucun dirigeant femme féminin en Union soviétique.
On a bien compris.
En France non plus. Vous n'avez aucun directeur des services de renseignement, que ce soit avant la Seconde Guerre mondiale ou après la Seconde Guerre mondiale, vous n'avez que des messieurs. Donc là, c'est pas...
Il y a une femme qui a été rendue célèbre en France dans les années 1980. C'était Dominique Prieur, puisqu'elle a été un petit peu mise en lumière par l'affaire Rainbow Warrior. Vous vous souvenez peut-être de ce sabotage du vaisseau Greenpeace Rainbow Warrior à l'époque.
Les faux époux Turange.
Donc c'était notamment Dominique Prieur.
La capitaine Prieur était effectivement une particularité. C'était la première femme officier du service action. Non pas forcément la première femme qui a été mise en jeu par le service action, mais qui avait le statut d'officier. Et on l'a fourvoyée avec le commandant Maffar. On l'a fourvoyée, c'était le gouvernement socialiste de l'époque, dans une opération imbécile, disproportionnée, qui a causé malheureusement la mort d'un photographe portugais, Fernando Pereira. Donc effectivement, le moins qu'on puisse dire, c'est que on a gâché cette opportunité que représentait la présence d'une femme officier du service action.
Et qui a sauvé d'ailleurs ce cas, parce que elle a servi de prétexte, en fait, elle est tombée enceinte, et ça a servi de prétexte pour les Français de les rapatrier en France.
Oui, parce qu'elle était sur un atoll dans le
Pacifique. Oh, oui,
ils étaient internés sur un atoll dans le Pacifique.
C'est ça.
Oui.
Quels sont aujourd'hui les pays qui ont les services secrets les plus performants aujourd'hui?
C'est les plus grands pays. Ceux qui ont les États-Unis, la Russie, la Chine,
Israël,
qui est un petit pays par la taille.
La France est un pays qui met des moyens dans l'espionnage. Quand vous parlez avec des gens qui travaillent dans ces secteurs aujourd'hui, ils vous disent par exemple que ce qu'on appelle le Levant, au Moyen-Orient, aujourd'hui, les services très très actifs et très utiles, notamment au plan technique, c'est des services un peu inattendus, les Canadiens et les Allemands. C'est assez inattendu, mais il semble que leurs apports soient tout à fait essentiels.
Et seule l'Amérique est capable de surveiller la planète aujourd'hui?
Les États-Unis surveillent beaucoup de choses. Ils font énormément de renseignements techniques, mais ils n'ont pas des résultats faramineux. Les attentats de 2001, ils les ont pas vus venir. Et la suite, ils ont eu un appareil de renseignement catastrophique sur le Moyen-Orient au début des années 2000. En Afghanistan, on peut pas dire que ce soit une merveille. Donc, il faut pas mythifier. Ils ont des moyens considérables, mais ils utilisent aussi des méthodes tout à fait condamnables. Par exemple, ils torturent à tour de bras. Et ça, c'est pas une bonne idée. Donc, Il y a grosso modo aujourd'hui en renseignement technique, en renseignement humain, ben beaucoup de pays sont à un bon niveau, mais il faut des moyens. Et en renseignement technique, les Français sont très bons pour une raison très simple, c'est qu'ils ont une excellente université et qu'ils sont ils produisent d'excellents mathématiciens, de très très bon niveau. Et ça, pour faire du chiffrement, du déchiffrement, il faut des mathématiciens, des informaticiens, des ingénieurs réseau, voilà. Ça, Roland les Français Pétrini. Sont très bons là-dessus.
Oui, la communauté du renseignement en France, c'est 14 000 personnes, 1,4 milliard d'euros. Aux États-Unis, j'ai pas les chiffres en tête du nombre, mais peut-être que Jean pourra le dire, c'est 53 milliards de dollars, dont 10 milliards uniquement pour le CIA. Alors, on ne peut pas résumer non plus un service de renseignement par les moyens uniquement financiers. Nous avons une culture en France qui est une culture intéressante parce que on considère que il faut d'abord être un bon analyste pour être un agent sur le terrain. Et ça, c'est vraiment un atout extraordinaire.
Ça veut dire quoi être un bon analyste ?
Un bon analyste, ça veut dire comprendre l'histoire d'un pays, comprendre D'accord. la culture d'un pays, pouvoir analyser un certain nombre de domaines autant économiques que politiques, ce qui fait que la personne qui est lâchée ensuite dans le pays, soit comme clandestin, soit comme non-clandestin, a des atouts et maîtrise son sujet. Et ça donne quelque chose, un avantage absolument extraordinaire que n'ont pas forcément les Américains, qu'ont le Mossad, mais pas forcément les Américains.
Vous étiez un bon analyste, Sergueï Girnov.
Bah, on nous préparait pour ça à l'école du KGB d'espionnage. On enseignait le renseignement, l'analyse géostratégique et géopolitique et les relations internationales. D'ailleurs, on a un diplôme sur lequel c'est inscrit spécialiste en relations internationales et non pas espion.
C'est quand même beaucoup plus cher. Rémi Coffert, vous vouliez intervenir.
Bah, oui, il faut s'entendre sur la notion de grande puissance, parce que effectivement, le Mossad est un service plutôt performant. Je consacre dans mon bouquin Les Femmes de l'Ombre un chapitre aux guerrières secrètes d'Israël. Mais naturellement, c'est pas un service qui veut avoir une envergure mondiale. Il est principalement axé sur ce qui est son problème, c'est-à-dire la situation d'Israël au Moyen-Orient et au Proche-Orient. Donc ça, c'est les grands services sont effectivement le SVR russe actuel, la CIA américaine et le Guangbu chinois, dont on parle relativement peu. On se polarise beaucoup sur les Russes et sur Poutine, mais le Guangbu chinois, il est créé en 1983 par Deng Xiaoping avec 7000 agents. Mais aujourd'hui, on peut pas évalué de manière très très précise, mais c'est par dizaines de milliers le nombre d'agents qui travaillent donc pour le Guangbu chinois. Sachant qu'il y a une douzaine de services de renseignement chinois, ça n'est que l'équivalent de la CIA pour les Américains, du SVR pour les Russes ou de la DGSE pour la France. Donc c'est quand même considérable et je suis toujours surpris que on y accorde moins d'importance, parce que culturellement, on a été habitué au temps de la guerre froide à avoir les Américains, les Occidentaux contre les Soviétiques, ou les services des blocs de l'Est, la HVA est-allemande, etc. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que c'est quand même un entrant, qui est un entrant de poids depuis plusieurs décennies.
Une petite précision aussi, c'est que c'est la même chose, on sait un tout petit peu pour les Russes. Ça veut dire qu'en fait, on parle de, par exemple, de chiffres d'officiers de carrière qui travaillent dans les services d'enseignement. On a oublié le GRU, hein. Le GRU, c'est 10 fois plus que le SVR, le renseignement militaire. Et le truc aussi, c'est que la Russie, c'est un pays totalitaire. Qui reste avec le principe, cette mentalité-là. Et ça veut dire que n'importe quel citoyen russe qui est à l'étranger est potentiellement un espion et peut être, on peut lui demander, l'ambassade peut lui demander de travailler pour un espion. Donc, actuellement, la diaspora russe, c'est entre 5 et 30 millions de Russes à l'étranger. Bah, c'est 30 millions d'espions potentiels à l'étranger. C'est le seul pays par rapport à ça. Ouais. Sauf la Chine. La Chine, c'est la même chose.
Et il y a une diaspora chinoise très nombreuse et très ancienne.
Ce que je voulais rajouter, c'est qu'en fait, il y a aussi un rapport au temps. Certains pays peuvent se payer le luxe d'entretenir des agents dormants, comme Sergueï pouvait en être un. C'est-à-dire qu'en fait, si l'Union soviétique ne s'était pas effondrée en 1991, peut-être que Sergueï serait actuellement sous-préfet et pourrait donner des informations à long terme et grimper dans la hiérarchie. Très peu de pays peuvent se le permettre, parce que on a un rapport au temps qui impliquent des moyens considérables. Et seul la CIA probablement peuvent se le permettre. Le Mossad, mais pour des raisons qui viennent d'être évoquées, parce qu'ils sont sur un territoire et c'est une question de survie, et probablement les Chinois. Car les Chinois, eux, effectivement, ont une action extrêmement importante, notamment vis-à-vis des entreprises.
Vous avez un exemple d'agent chinois ça avait fait dans les années 80 beaucoup de barouf, Larry Wu Tai-ching, et il a été arrêté aux États-Unis. Ça faisait 25 ans qu'il avait été infiltré au moment de la guerre de Corée, donc dans les années 50, il avait été effectivement infiltré. Il y avait des gens qui travaillent à long terme et des gens qui travaillent sous l'emprise de la nécessité. Moi, dans mon bouquin, je parle beaucoup des femmes dans les réseaux de renseignement, de la résistance, que ce soit en 14-18, ce qu'on ignore généralement parce que l'horizon est bouché par le mythe de Matahari, qui était une totale nullité en matière d'espionnage, mais qui fait frétiller les messieurs parce qu'il y a un aspect sexuel. En réalité, il y a eu beaucoup de femmes françaises, belges, résistantes et tout à fait héroïques. Et puis, pendant la Seconde Guerre mondiale, évidemment, les réseaux de renseignement qui étaient très largement comblés par les femmes, parce que tout simplement, en effectif, je veux dire, tout simplement parce que les hommes pouvaient se déplacer moins et il y avait moins de vigilance à leur égard. Elles ont drôlement trinqué dans les deux cas, 14-18 ou que ce soit 39-45.
On quitte les espions pour retrouver un groupe toujours sur le qui-vive du rock. Pixies s'expose dans le NRV. Comme un devil, call me friend, but call me Blackjack Cool again. I came all the way from Aberdeen to live among the go-betweens. Let me tell you about Catfish Kate in a time before when she's just here in the mountains, all alone, before the time we call this home. Where is my angel falling? Down at the river bottom. And will she get away? Where is my life for blossom? Is she just playing possum? Put inside a favorite dish. A catfish grabbed her by the head and took her to his house instead. Where is my angel falling? Down at the river bottom. And will she get away? Where is my life blossom? Is she just playing possum? Wrestled all the day and night, the morning show, the bloody sight. Kate all dressed in catfish clothes, his whiskers for her catfish robe, whiskers for her robe.
Ok, donc c'est confirmé, c'est notre client. Ok, là il y a prise de contact.
Ouais, c'est reçu, pour moi c'est dans la boîte.
Individu, 1m80 environ, blond,
Une des missions de la DGSI, c'est de faire ce qu'on appelle la protection du patrimoine. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le patrimoine informationnel des entités publiques comme privées, et de voir un petit peu ce qui s'y passe.
Autorité pour colonne, top progression. Progression façade. Top inter.
Ils ont été interpellés par la DGSI.
Le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Tiens, un extrait de la nouvelle campagne de la DGSI lancée vendredi dernier, ça recrute dans les services secrets français intérieurs.
Oui, ils font des clips maintenant.
Mais ouais, c'est ça, Christophe Bourseiller. Engagez-vous YouTube. Si ce n'est pas déjà fait.
Bah, écoutez-vous donc, hein, vous me direz comment on fait, Laurent.
Oui,
on
bien sûr.
Quand vous voulez, bien sûr. En tout cas, moi, il y a une question que je voulais poser peut-être à Jean Guinel. Jean Guinel, votre livre parle de la DGSE, bien sûr, c'est l'histoire secrète de la DGSE. Mais en même temps, il y a beaucoup d'autres services. On l'a entendu un petit peu là, parce qu'à un moment donné, Laurent Goumard parlait du FSB. Ah non, il y a un autre service. On a parlé du KGB. Ah non, il y avait un autre service, le GRU. Aux États-Unis, on parle de la CIA. Ah non, il y a la NSA. Et finalement, est-ce que la DGSE, c'est pas l'arbre qui pourrait cacher la forêt de différents services de renseignement beaucoup plus discrets?
C'est-à-dire, en France, les questions de renseignement, il faut que les gens s'y intéressent parce que c'est important. Des services de renseignement en France, il y en a à vue de nez, il y en a entre 15 et 20. Donc, il y a
avec
ceux
des spécialités.
Ceux qu'on appelle ceux du premier cercle, c'est-à-dire ceux qui dépendent du ministère de la Défense et la DGSE, la Direction du Renseignement Militaire et la Direction de la Sécurité de la Défense, la DRSD. Vous avez ceux du ministère des Finances, c'est-à-dire celui qui fait la délinquance financière, qui s'appelle TRACFIN, notamment la délinquance internationale. C'est celui auquel sont transmises les données par votre notaire lorsque vous achetez un appartement. Et TRACFIN va regarder d'où vient l'argent, toujours. Et vous avez les douanes, très important. Et puis vous avez les services du ministère de l'Intérieur, comme la DGSI et c'est tout. Je crois.
La DRM. Non.
Et la DRM, non, c'est la Direction du Renseignement Militaire. Je parle des services du premier cercle.
Ah bah, d'accord. Ouais.
Et ensuite vous avez les services qui sont un peu en dessous, le nouveau service de renseignement judiciaire, la gendarmerie nationale, les voilà. Après vous avez des quantités. Oui, mais c'est la communauté, ceux qui tiennent le haut du pavé, c'est les six services du premier cercle. Et puis parmi les six services du premier cercle, le plus puissant parce qu'il est le mieux doté en argent et en moyens et aussi en capacité technique avec ses centres de calcul et son stockage qu'il appelle le traitement informatique de masse et tout ça, ça c'est la DGSE.
Sergueï Mironov.
Il y en a beaucoup. Mais aux États-Unis, il y en a 17 aussi. On parle de la communauté, d'intelligence community, aux États-Unis. Et donc, il y a quasiment, le ministère de la Finance et son service de renseignement, le ministère de la Défense, etc., etc. Donc c'est la règle maintenant, oui.
Oui, je rajouterais simplement que le ministère de la Justice, c'est tout récent, et Jean l'a oublié, c'est SNRP. Qui est le service pénitentiaire, le service de renseignement de service pénitentiaire, qui est tout à fait récent.
Il n'est pas dans le premier cercle.
Mais c'est pas dans le premier cercle.
Pardon. Alors, ce qu'on peut noter, c'est que dans ces services, un service-là qui est du second cercle, on peut dire, qui est le service de renseignement territorial, qui, à ma connaissance, est le seul service de renseignement en France dirigé par une femme qui est Lucille Roland.
C'est ça.
Donc il y a quand même pas beaucoup, on en revient à la France, il y a quand même pas beaucoup de femmes à des postes de direction dans les services de renseignement.
Dans le deuxième cercle, il faut pas oublier la cyberdéfense.
Mais c'est ça,
qui est extrêmement important.
Oui, aujourd'hui c'est même essentiel, tout ce qui est informatique, web,
et
tout ça.
Le commandement des opérations spéciales. Dans mon roman d'ailleurs, Piège au Levant, je montre les connexions qu'il peut y avoir entre les clandestins et le service action et le commandement des opérations spéciales. Parce que de plus en plus, il y aura forcément une complémentarité. Il ne faut pas oublier que l'enseignement, la finalité du renseignement, c'est tout de même l'action au bout du bout.
Ce n'est pas la protection.
C'est forcément la protection.
Mais c'est pas la même chose. Rivalité entre les services.
France est unie, elle est seule, elle est indivisible.
Là, je suis pas d'accord, malheureusement. La finalité de l'enseignement, c'est le renseignement, c'est l'information, et c'est la prise de décision, c'est aide à la prise de décision par le chef de l'État ou par le premier ministre. L'action, en général, c'est quand on est impuissant de faire quoi que ce soit, et donc en fait, l'action, c'est
L'échec.
C'est l'échec de l'information.
Mais on est, je suis assez d'accord, effectivement. Le but des services de renseignement, c'est d'éclairer le pouvoir politique sur ce qui se passe, de préférence dans le monde, si le pays veut avoir une visée mondiale. Alors ça, c'est un autre problème.
Et de préférence en avance.
Voilà.
Quand je parlais d'action politique. C'est-à-dire qu'il y a tout de même une intelligence politique.
Il faut que ça serve à quelque chose. Mais voilà. Une précision, quand vous parliez tout à l'heure du commandement des opérations spéciales, il faut établir la différence avec la division, le service action de la DGSE.
C'est
que les gens du commandement des opérations spéciales, ce sont des militaires qui opèrent en uniforme.
Oui.
Ce sont des unités régulières de l'armée, dites forces spéciales, tous les pays en ont.
Vous avez dit, comme les Spetsnaz chez nous.
Chez les Russes, les Soviétiques et chez les Russes maintenant, bien sûr. Mais ce sont des militaires qui agissent, ce ne sont pas des clandestins.
Non.
Et la division action de la DGSE, ce sont effectivement des gens qui peuvent intervenir sur le terrain dans des opérations moustachues, comme on dit dans ce milieu, parce que c'est assez machiste quand même, assez moustachu, c'est le comble du courage. Et effectivement, là, ce sont des clandestins qui n'opèrent pas en uniforme, qui peuvent opérer en uniforme, mais qui ne sont pas obligés d'opérer en uniforme.
C'est la différence entre le premier cercle et le deuxième cercle, on est bien d'accord.
Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, on a des différences par rapport à ces formes-là, puisqu'en fait, pour nous, les Russes, les clandestins, c'est les gens qui n'ont pas la nationalité russe. Ça veut dire que moi, j'étais sur le terrain, je pouvais avoir le passeport français, un passeport suisse, un passeport canadien, etc. Et donc, ce qui est montré, par exemple, dans le bureau des légendes, c'est de la rigolade, parce que ils sont pas clandestins. Il y a un prof il y a un espion qui travaille comme un prof au lycée français de Beyrouth. C'est pas un clandestin. Il est français, il est là sur le terrain. Donc, en fait, sur les mots, il y a une légère différence entre les services et les États.
Eh bien, ça sera le mot de la fin pour nous tous. Tout de suite, on va partir du côté de l'Inde. Ça sent encore...
Une opération moustachue.
J'ai l'impression. Très moustachue, oui. Barbu et moustachu, si je regarde derrière vous, Christophe Bourseiller.
Oui. All right, let's have a
little rumble at the Ritz tonight. Le nouveau rendez-vous sur France Inter.
C'est le live, le premier de la semaine, Marion Guilbeault. Et vous êtes allée du côté de l'Inde.
Ouais, direction
on a
non,
des budgets non, sur France Inter.
C'est ça. Direction non pas le Caire ni des espions, mais Pondichéry, en Inde, avec David Stank, musicien, producteur, bien connu de la scène pop française. Il a été le leader du groupe Tahiti Boy. Il a aussi collaboré aux bandes originales de Christophe Honoré, de Quentin Dupieux. Et son nouveau projet, Air India, se présente également comme une bande originale, mais celle d'un voyage. Alors, ce voyage est-il réel, imaginaire? On ne sait pas. Et c'est pas le plus important dans cette histoire. L'aventure d'Air India commence la veille du départ avec ça.
Il était une fois un grand voyage. David, 38 ans, barbe noire, lunettes rondes, boucle sa ceinture sur le siège 21B du vol 304 à destination de Chennai. Ah, ce voyage en Inde, ça fait longtemps qu'il s'y prépare.
Alors voilà un disque qui s'ouvre comme un conte pour adultes déboussolés ou jetlagués. David Stank s'invente un pays mythique à coups de sitar, de raga, de barrissement d'éléphants, mais évite les pièges aussi bien de l'exotisme que du Bollywood grâce à l'exotica. Air India sans le curry, d'accord, mais aussi des effluves de Michel Legrand, de François de Roubaix et de jazz psychédélique. Air India ou comment voyager sans sortir de sa chambre ou plutôt de son home studio. Bonsoir David Stank, vous êtes le Shiva de ce projet. Compositeur, producteur, chanteur. Et ce soir, vous avez amené avec vous quelques ingrédients de cette Inde fantasmée. Est-ce que vous pouvez nous les présenter?
Bah oui, tout à fait. Alors j'ai décidé de venir avec Denis Test, qui est ici dans le studio, qui fait du sitar.
Assis par terre.
Assis par terre, en chaussettes.
Ouais.
Voilà.
Autre bien.
Jeu de mots. Très très bon. Et du coup, que dire? Eh ben, c'est grâce à Denis que je suis parti en Inde, parce qu'un jour il m'a dit qu'il y allait et j'avais rien de prévu et j'y suis allé. Je suis rentré. J'ai écrit l'album et donc Denis est aujourd'hui dans le groupe en toute logique. Et il y a Uma qui chante, qui est là derrière moi.
On va voir apparaître dans quelques instants.
Qui est tout à fait ici, qui est originaire de Chennai et qui chante dans sa langue maternelle, comme en anglais, comme en français. Et donc voilà, on a pris un petit peu les saveurs du pays pour jouer ce morceau.
Eh bien on vous écoute, Pondichéry Nuit, c'est son titre. C'est à vous David Stank. Ooh. Pondichéry News, extrait de Air India, ce nouvel album de David Stang qui est disponible sur le label Entreprise. Il était au chant et au MS-10. Ouma a chanté également, Lucas a fait de la contrebasse, Nicolas du piano et du North Stage, Mathias de la batterie et Denis du sitar. Ils seront en concert le 6 février 2020 au Café de la Danse à Paris. La prise de son ce soir assurée par Guillaume Roux et Charles Pellabon. Merci beaucoup d'être passé par le nouveau rendez-vous.
Et merci à nos invités. Merci Sergueï Girneuf. Je rappelle, Pourchassé par le KGB, Naissance d'un espion, c'est aux éditions Corpus Delicti. Rémi Coffer, Les Femmes de l'Ombre, aux éditions Perrin. Jean Guinel, L'Histoire secrète de la DGSE, c'est chez Robert Laffont. Et enfin Roland Pietrini, Piège au Levant, aux éditions Pierre de Taillac. Merci à vous quatre. C'était le NRV première partie. On va se retrouver dans 15 minutes sans Christophe Bourseiller pour le NRV La Suite, France Inter Plus. Mais demain, demain dans le NRV.
On doit tous la vie à quelqu'un et souvent à plusieurs personnes. J'ai eu toutes les chances et mon frère aucune.
Demain, Shoah. Comment ne pas oublier ? On vous attend sur le sujet. Vous pouvez laisser des messages, des questions, des analyses sur notre répondeur au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Shoah, comment ne pas oublier ? En live, Marion, demain ?
On a rendez-vous avec le jazz métissé de G. Drew.
De qui ?
G. Drew.
Très bien.
De qui ? Non, pas Guy Drew.
Non. C'est ce que j'attendais.
Vous arriverez à le dire d'ici demain,
non,
vous inquiétez
c'est
pas.
Parfait. Le NRV, c'est Marion Lelay à la réalisation, programmation, préparation, Virginie Rouzic et Clémence Diligent.
Rendez-vous.